Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette première table ronde radiophonique lors de cette quatrième édition de la fête du circuit court de Radio Divois et le 101.7, son espace de vie sociale du Haut Divois. Première table ronde que, comme la deuxième, nous avons conçue ensemble lors de quatre réunions avec les villageois et les villageoises depuis janvier. Nous avons donné une thématique déjà à la journée, en plus d'être une journée d'accueil et de présentation, d'exposition de toutes les richesses de production humaine ou naturelle qu'on peut voir avec les exposants qui sont là jusqu'à ce soir. Nous avions aussi à cœur de parler de spécificités de Poyol, où nous nous retrouvons pour toute la journée, mais aussi d'histoire humaine, d'histoire de flore, d'histoire de faune, d'histoire de pierre, d'histoire de rivière. Et le thème a été trouvé, Poyol, la vie entre roche et torrent. Et donc cette première table ronde va être plus spécifiquement lié à l'expérience de Poyol, des Poyolais, des Poyolaises, intitulé ensemble « Des éléments qui façonnent, un village qui s'adapte ». Donc autour de moi, pour animer cette discussion, qui sera en deux temps, un premier temps où nous échangerons avec les personnes autour de la table sur leur connaissance du terrain, leur connaissance de l'histoire, de la géographie humaine, mais pas que, qui durera une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis un deuxième temps où nous pourrons passer un micro aux personnes qui souhaitent poser des questions. Donc autour de la table, nous avons Mado Joubert. Bonjour.
Bonjour à tous.
Mado Joubert qui est active à l'association Les Amis de la BU, qui a été longtemps active aussi à cette association, qui est un peu le comité des fêtes de Poyol. Nous avons Jean-Claude Rouchouze.
Oui, bonjour à tout le monde.
Dont la mère est native de Poyol, m'a-t-on dit.
Voilà, la famille Nal de Poyol.
Et qui vient un peu pour partager ses connaissances historiques, géologiques, des plantes, des champignons.
Des plantes, des champignons.
De la géographie.
De la papillons.
Oui, de la démographie.
La démographie de Poyol.
Et même qui pourrait, si nous avions le temps, nous parler de la préservation des cimetières familiaux protestants du Diwa.
Ils sont nombreux à Poyol.
Voilà. Nous avons aussi Georges Grandjon.
Oui, bonjour.
Qui vient pour la Société française d'orchidophilie Rhône-Alpes et qui connaît bien les orchidées.
Je les connais.
Du territoire, en tout cas. Et Jean-Jacques Ferrier.
Bonjour.
Bonjour, qui est fils d'agriculteur, qui est né à Poyol et qui est secrétaire aussi de l'association, la CCA de Poyol, l'association de chasse, et aussi membre d'une association d'aéromodélisme à Poyol. Donc on viendra parler un petit peu de différentes choses qui concernent spécifiquement et le village et la vallée. Mais pour commencer, un petit peu pour les auditeurs, les auditrices qui n'ont pas la chance d'être comme nous sous ces deux tilleuls au frais avec une vue formidable sur les montagnes qui nous entourent, est-ce qu'on pourrait présenter un peu la topographie de Poyol ? Où se trouve Poyol et au milieu de quoi se trouve Poyol ? Qui voudrait
C'est-à-dire que la topographie de Poyol est relativement simple, puisque toute la vallée a une direction nord-sud, qui est liée au plissement alpin, hein, qui a fait la direction nord-sud. Et on a la montagne de Clamontard du côté est, et la montagne d'Oslon et la montagne de Boutarinard du côté ouest. L'altitude maximum, elle est vers 1470 mètres. Sur la montagne d'Oslon, et puis 1100 mètres sur la montagne de Clamontard, et on a quand même des collines qui sont d'origine quaternaire comme Cerlon. Mais la géographie est relativement simple, et la Beu, donc le ruisseau de Poyol, est de direction nord-sud en raison du plissement alpin.
Merci Jean-Claude. Et j'ai lu, Mado, aussi, qu'on appelait à l'ouest les serres, c'est ça ? On les dénomine un petit peu de manière générique, la montagne d'Oslon comme les serres ?
Oui, alors au pied de la montagne des Côtes, puisque les Poyolais disent disait les côtes. Il y a de nombreux serres et notamment entre les serres, de nombreuses sources qui descendent et alimentent le village, donc le cœur de tout ce qui donc irrigue le village arrive de la montagne de l'ouest.
Est-ce qu'on pourrait rappeler brièvement ce que sont des serres pour celles et ceux qui...
C'est des collines, sur les collines.
Ce sont des collines,
des
oui.
Des collines.
Oui.
Il y a au minimum 6 sources qui sont toutes du côté rive gauche de la Béou.
Qui viennent toutes de l'ouest, donc.
Oui.
Est-ce qu'il y a un complément d'informations picturales, géographiques que vous voulez donner à nos auditeurs, nos auditrices qui n'ont pas la chance d'être à Poyol?
On peut rapidement nommer les quelques serres principaux. En fait, les serres, c'est un peu des contre-plissements qui se sont faits au moment de la formation des montagnes, comme l'a expliqué Jean-Claude, et qui sont restés du coup beaucoup plus bas. Donc on a au sud le Serre des Morts ou Serre Morin. C'est sur la ferme de Visissière. Ensuite, on a Serre-Long. On a aussi le Serre des Vignes, qui est le coteau qui est le plus vu à Poyol. C'est là où qui est bien exposé pour faire des vignes. Voilà.
Et moi, je rajouterais que pour les orchidées, c'est très bon, parce que globalement, ici, c'est calcaire. Et les orchidées, elles adorent ce genre de terrain.
Oui, au niveau géologique, on pourrait dire qu'on n'est que sur des flancs calcaires.
Marneau et calcaire. Au niveau géologique, c'est pas compliqué. Il faut se rappeler le mot OKTB. La couche la plus ancienne, c'est l'Oxfordien, c'est les marnes noires qui sont en bas de Poyol, avec un sommet calcaire qu'on appelle la barre rouracienne. Au-dessus de ces marnes noires, on a l'aspect strié du Kiméridien. Et tout en haut, la grande falaise calcaire, c'est le titonique. Donc de l'Oxfordien en bas jusqu'au titonique en haut, c'est l'époque jurassique et on a eu 21 millions d'années de sédiments marins. Et le quaternaire, bien sûr, se traduit par les éboulis, par les serres longs, ça c'est du quaternaire. Mais on pense que l'éboulis principal a eu lieu après l'effondrement du Claps, si bien que Poyol a changé qui était en hauteur et descendu.
On va y venir.
Et
ouais.
Voilà.
L'incidence que ça a au niveau des résurgences de sources, ça se situe où à peu près les sources
Alors les sources se situent en dessous de la barre horacienne des marnes noires de l'Oxfordien. Donc elles sont un petit peu en hauteur. Mais c'est assez variable quand même. Et il y a tout de même une curiosité, c'est les deux sources minérales ferromagnésiennes du Miral qui ont été exploitées six années seulement, vers 1863, et qui sont des sources qui, paraît-il, guérissaient tout, mais ça n'a été exploité que pendant 6 ans au Miral. Mais elles coulent toujours et elles remontent des profondeurs du Trias, des profondeurs du secondaire.
Donc j'entendais quand on préparait un petit peu cette table ronde, on parle des fois de termes de dérochoir. Est-ce que les sources viennent directement de sortie de ces éboulis ou de ces roches?
Non, elles sont au-dessus des éboulis. Hein. Ce sont des sources qui sont au niveau de la couche la plus ancienne, qui est c'est la partie supérieure des marnes noires, parce que les calcaires sont perméables, donc l'eau traverse les calcaires. Par contre, les marnes sont imperméables. Donc quand il y a des niveaux marneux, c'est souvent au sommet des niveaux marneux que l'on a des sources.
Donc Jean-Claude a commencé à en parler un petit peu. Il y a eu quelques éléments cataclysmiques, on pourrait dire presque, qui ont façonné, qui ont déplacé un petit peu la population dans ce vallon. Et Mado, en lisant un petit peu le travail qui avait été fait de recherche des amis de la BU, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, par rapport à ces deux montagnes, en fait, au niveau historique, implantation humaine, On a retrouvé des traces d'une voie romaine qui se situait du côté ouest, donc sur les côtes, et qui passait grosso modo entre les deux fermes, qui doivent être autour de 700-800 mètres. Ensuite, de nombreux témoignages, et bien sûr aussi des témoignages oraux de nos anciens, justifient la présence du village de Poyol, côté est, côté levant, un petit peu sur le flanc direction Luc, où là, le village de Poyals, en 1231, donc, est déjà signalé avec un château, avec, plus tard, on a retrouvé des restes d'un cimetière. Comme par hasard, nous sommes sur le quartier Saint-Marcel. Or, l'église de Poyol s'appelait église Saint-Marcel. En tout cas, l'étymologie du mot Poyol, c'est un lieu un peu élevé, ce qui signifie que Poyol, à l'origine, n'était pas dans la vallée, là où il est aujourd'hui. Il était bien là-haut.
Ça vient de Podiolis, Podiolis, lieu élevé en latin, Podiolis.
Qu'est-ce qui s'est passé? Les traces dans le village actuel, les pierres les plus anciennes remontent à 1517, 60, 70, etc. On est donc entre 1500 et 1600 sur les plus vieilles pierres dans les maisons. En fait, tout laisse à penser qu'en 1442, donc... Ébouli du Claps, donc ça, c'est incontestable.
La date exacte, on la connaît maintenant, parce qu'il y a un document, c'est le 19 août 1443.
Alors,
19 août 1443.
Alors, en 1443, par contre, on a récemment trouvé dans une poésie écrite par la baronne de Sassenage, à côté de Grenoble, donc, elle parle d'un séisme important dans le Diwa, qui aurait provoqué donc l'éboulement du Claps. On a retrouvé aussi dans les archives de l'église de très grosses fissures sur le clocher de la cathédrale de Die à cette époque-là. Donc tout laisse à penser que Clamentard a été concerné par les effets de ce séisme. Clamentard, je viens de dire Clamentard, c'est la montagne éclairée tard. Et donc, entre ces deux montagnes et la façon dont le village après est descendu, on a donc cet écho entre les deux sommets, les côtes, soleil couchant, et Clamentard, soleil levant.
Donc trois époques d'installation, une époque romaine plutôt du côté des serres à l'ouest,
oui.
Une époque médiévale plutôt à l'est côté Clamentard, et ce village Poyol ou Podium, Podiolis, qui était perché, arrive au XVe siècle, donc à peu près, enfin milieu XVe siècle, débarque dans la vallée de ce torrent. On peut l'appeler Torrent, hein,
On peut l'appeler Torrent. Sur les traces, juste deux mots. Très récemment, j'ai retrouvé, parce que maintenant, nos connaissances s'étoffent avec Internet, de nombreuses traces sur les seigneurs de Poyol, notamment dans les archives de la noblesse du comté Venessin, parce qu'il y avait eu des mariages. Donc, on a plusieurs noms de seigneurs pour tous ceux qui sont intéressés. Je passe rapidement. En tout cas, au niveau de Poyol actuel, il y a une seule pierre que Jacques Planchon, le conservateur du musée de Die, a identifiée comme étant la seule pierre vraiment descendant du château. C'est un blason qui est sur la maison actuellement Gou, dans la rue principale. Et d'ailleurs, cette maison, Cathy Gou nous a dit, mon grand-père et ma grand-mère, quand ils l'ont achetée, ont toujours dit que c'était la maison du Seigneur. On l'appelait ainsi.
Et, il faut rappeler que vers 100 après Jésus-Christ, Luc en Dua, était le plus grand centre romain de la région, vers 100 après Jésus-Christ. Après, c'est dit, a pris le relais, mais vers 100, c'était Lucandioua. Donc Poyol n'est pas loin.
Et que de Lucandioua, pour aller par exemple à Vaison-la-Romaine ou d'autres cités qui sont plus dans la vallée de l'Aigue en descendant, c'était le passage ici.
Oui, tout à fait.
Donc les constructions du village étaient en pierre dès l'époque romaine, voire médiévale. Donc il y a eu une gestion de la roche de tout temps par les habitants. Est-ce que cette roche, on la retrouve, donc Mado, à l'instant vous disiez, on retrouve des pierres qui ont été rapportées de l'ancien village. Le village actuel, il est encore avec pas mal de maisons en pierre, bien sûr il y a des constructions plus récentes.
Bien sûr.
Donc il y a cette gestion déjà de la roche pour la construction.
Oui, oui, les anciens allaient choisir leurs pierres dans le lit de la Béou. Et puis, elles sont montées avec de la chaux, hein, beaucoup d'utilisation de la chaux. Il y avait des fours à chaux qui ont été retrouvés aussi sur les anciens plans du village.
Je peux peut-être dire deux mots sur le lieu de la tour, donc, qui était le petit promontoire sur lequel se trouvait le château donc, seigneurial de Poyol. Je ne sais pas si on peut dire château, c'était peut-être plutôt une tour pas très importante néanmoins. Je pense que les Poyolais, comme l'a dit Mado tout à l'heure, ont beaucoup réutilisé ces pierres. Il suffisait de les faire descendre, donc il n'y avait pas à les monter pour construire le village. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on trouve peu de choses là-haut sur ce promontoire. Mais j'ai souvenir que mon grand-père me disait, quand j'y allais, je voulais voir les traces du château, il me disait « Tu ne trouveras rien, quand j'étais gamin, on a fait rouler les dernières pierres pour s'amuser. » Mais j'ai retrouvé plusieurs pierres, notamment, comme en parlait Mado tout à l'heure, peut-être hors antenne, plusieurs pierres qui sont des pierres taillées. On en voit une qui est une pierre d'encadrement de porte. On voit la forme, l'entaille pour loger la porte. Et puis on voit aussi le trou où on mettait le verrou pour verrouiller la porte. Donc il y a quelques pierres comme ça encore qui traînent. Il faut vraiment chercher, mais on peut encore en voir.
Gestion médiévale, construction en pierre, utilisation du bois ou des forêts environnantes, jusqu'à une certaine déforestation aussi. Ça, c'est assez commun à tous les villages de montagne ici. En descendant dans la vallée, il y a eu à cohabiter avec ce torrent. Et à partir de là, il y a eu plusieurs adaptations des villageois, des villageoises, par rapport au cours impétueux de la Béou. La Béou, ça s'écrit avec un S, avec un X.
Avec un S, avec un X, puis de nouveau avec un S.
Maintenant, on met plutôt un S.
En tout cas, certainement que les Poyolais, après s'être battus avec les pierres et avoir peur des éboulis, quand ils sont installés dans la vallée, où d'ailleurs on ne retrouve que dans les archives de la commune la trace d'un hameau, la Chevalerie. On peut donc penser qu'ils se sont ensuite développés, étalés autour du hameau de la Chevalerie. Ça, je l'ai trouvé dans les plus vieux registres de délibération. Donc en fait, en arrivant ici, ils ont dû gérer l'eau, le problème du village à côté du torrent. Et puis, ils ont eu aussi à gérer, pour pouvoir survivre, la rudesse du sol. J'ai trouvé par exemple la terre forte, un peu argileuse, tirant sur le noir, ne pouvant être retournée qu'avec des bœufs ou à la bêche. Et on retrouve la difficulté, la pauvreté des habitants sur beaucoup, beaucoup de témoignages. Et notamment en 1789, lorsqu'il y a eu les doléances, le village de Poyol a écrit un long texte, quelques éléments. Les deux tiers des terres sont occupées par des montagnes en coteaux, qui seraient les serres, je pense. Ils les appelaient les montagnes en coteaux. Celle du Levant n'offre qu'un rocher pelé, donc celle-là. Et il conclut en disant... il n'y a qu'un sixième du terroir qui ait quelque valeur.
Donc, exploitation difficile pour survivre. Pelé, là, Mado, vous nous avez amené une photo qui date de juste avant,
avant
1900. On voit Poyol dans la vallée et Clamontard qui, effectivement, comme les autres montagnes du Diwa, avait bien été exploité au niveau bois, au niveau forestier. Au niveau agriculture, quelle mémoire, là je parle un petit peu aux enfants d'agriculteurs, aux enfants du pays, quelle mémoire vous avez conservé des discussions des anciens? Alors c'est peut-être moins ancien que 1789, mais peut-être qu'ils ont connu dans les années 1870, toute la politique de rétablissement, restitution des terrains en montagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être Jean-Jacques ou...
Mais en fait, je pense que le résumé était assez bien là, par nos anciens de 1700 et quelques, là, en disant que seulement un sixième du territoire était exploitable. C'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui, je dirais. Les deux flancs des deux montagnes sont trop abruptes pour pouvoir être exploités. D'un côté, il y a beaucoup de ravins. De l'autre côté, c'est très abrupt. Les seules exploitations dont j'ai entendu parler, moi, en étant gamin, c'est il y avait des lavandes autrefois dans le côté des côtes, donc le côté ouest. Il y a eu des lavandes. Il y a eu aussi des cultures de pivoine pour la teinture, qui était essentiellement utilisée pour la teinture. On en trouve toujours des pivoines qu'on appelle sauvages maintenant. Donc du coup, les seuls terrains vraiment utilisables sont les terrains qui sont un peu au fond de la vallée, mais qui, malheureusement, ont été souvent inondés par les débordements de la Beau. Donc du coup, ça ne laisse pas beaucoup de terrain fiable et, je dirais, avec un rendement correct. Donc c'est un village un peu rude pour l'agriculture.
Et au niveau de la Beau, qui reste un torrent, le côté torrentiel s'explique par la géologie. Parce que c'est les grandes zones érodées du Cuméridien qui font que quand un orage se bloque sur ces zones érodées, ça descend à toute vitesse et on a donc un danger de crue. Vers 1860, Poyol a été inondé par la Beau. Et heureusement, à partir de la construction de la déviation en 1976, maintenant Poyol ne peut plus être inondé par la Beau.
Donc oui,
peut-être une petite anecdote à propos de ce que vient de dire Jean-Claude, à propos de ces crues violentes dans cette rivière. Quand j'étais gamin, j'allais à la pêche, et une fois j'étais à la pêche dans la rivière ici, là, juste en face du village, et j'ai entendu, alors, il y avait eu un orage, mais je ne me suis pas méfié, j'avais peut-être 12 ans, 10 ou 12 ans, j'ai entendu un grondement, j'ai vu arriver devant moi une vague, je ne dirais pas d'un mètre de haut, mais de au moins 80 cm de haut, j'ai juste eu le temps de sortir de la rivière.
Et c'est le reboisement à partir de Napoléon III qui a fait qu'on a moins de risques maintenant.
Sur les cultures, moi j'ai été très surprise de trouver dans les archives des traces de vignes sous le château. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout sur ce versant. Ce qui veut dire que déjà, il y avait donc déjà production de vin. Et ça a été quand même très longtemps, même si aujourd'hui il y a des interrogations, la richesse du village avec le coteau des vignes donc, qui est en appellation contrôlée, Clairette de Die. Et il y a eu aussi au XIXe siècle, bien sûr, le développement de la noix avec beaucoup de plantations de noyers qui ont sans doute de ce côté, du côté est, donc remplacé les vignes d'avant.
Encore peut-être un petit mot sur les vignes donc du côté est, à l'endroit le moins approprié. Un de mes arrière-grands-pères maternels, qui s'appelait Théophile Mielon, qui était instituteur à Poyol, avait aimé l'agriculture et en parallèle de son activité d'instituteur, il faisait un petit peu d'agriculture et il adorait faire du vin et la vigne. Donc je confirme ce que vient de dire Mado, il avait une vigne ici au milieu de la montagne, dans l'endroit le pire pour faire de la vigne, et il a eu un prix avec sa clairette. Je dois avoir encore quelque part le diplôme. C'est quelque chose d'incroyable. Je me demande comment il faisait pour faire de la clairette dans un UBAC, quoi.
Je reviens sur quelques dates, Mado, que vous aviez notées, des crues mémorables. Il y a eu 1724, 1731, 1848, 1849, 1850. Donc là, on voit que ça correspond à des périodes où il n'y avait plus trop de retenue par les arbres et où ça pouvait dévaler vite. J'ai noté aussi, on m'avait dit que à partir de, alors je ne sais pas de quelle époque, mais dès le moment où il y a eu une envie de contrôler un petit peu ces effets torrentiels, 44 digues avaient été construites, 13 barrages sur la BU. C'est pas rien pour un vallon. Donc il y a quand même eu une interaction quatre digues, quatre. Pas 44. Donc, quatre, merci. Quatre, oui. Donc c'est une erreur de frappe. 4 digues et 13 barrages, ce qui reste quand même assez impressionnant. Donc il y a eu une envie d'apprivoiser cette ressource un petit peu. Le bas de la vallée est cultivable. On a parlé un petit peu de culture. Là, on est sous des tilleuls. Il y a des tilleuls, une allée de tilleuls qui a été plantée aussi peut-être au 17e ou
18e. 1913.
À 1913. Donc ils ont un peu plus de 100 ans. Quel est l'impact sur... Là, on vient peut-être un peu sur l'aspect... flore et faune. Qu'est-ce qu'on retrouve de spécifique? Donc on a parlé de pivoine qui avait été cultivée, de lavande. On parlait de vignerons qui n'avaient pas peur de monter dans les rochers. Georges, est-ce que Poyol et la vallée de la Béou est assez particulière, ou comment elle s'inscrit dans le paysage d'orchidophile?
Disons qu'il y en a, c'est une commune où il y en a moyennement, elle se situe dans la moyenne. On en a recensé 29 sortes, mais bon, comme beaucoup de communes, il n'y a pas assez de personnes qui viennent les prospecter. Et on a des données qui sont un peu anciennes. Bon, on n'est pas nombreux. Pour venir ici, c'est le problème de toutes les associations. On manque de jambes.
Jean-Claude, vous voulez rajouter?
Oui, alors au niveau de la flore, la commune de Poyol est très riche, puisque moi j'ai répertorié 430 espèces différentes de fleurs sur la commune. Les fleurs les plus fréquentes, ce sont les astéracées avec 54 espèces, les fabacées, les papillonacées avec 42, les graminées 34, les orchidées près de 29 espèces et les rosacées qui sont à 23 espèces. Donc on est très varié. Et en ce qui concerne les champignons, c'est aussi très varié avec près de 102 espèces différentes de champignons, dont environ 10 bons comestibles, mais 60 toxiques, dont 2 mortels.
Et ça, c'est assez spécifique à la vallée, cette diversité, où on la retrouve
On la retrouve de manière assez générale dans le Diois, mais Poyol, c'est l'un de ses points forts, a une grande biodiversité. On observe simplement, peut-être en raison des pesticides, une très forte diminution de la variété en ce qui concerne les papillons.
Il n'y a pas eu de grande exploitation agricole avec de forts pesticides dans le vallon?
Dans la vallée, non, mais comme les pesticides vont partout, il est possible que ça impacte sur la faune d'insectes et en particulier de papillons, c'est certain. Moi, je collectionnais les papillons de Poyol dans les années 1960-70. Il y avait plus de 40 espèces. Aujourd'hui, on en voit 7-8.
Georges, je reviens juste un petit peu sur les orchidées. Est-ce qu'il y a un besoin précis de l'orchidée en termes de climat, en termes hygronomiques, et en quoi Poyol constitue un bel habitat? Mais
disons qu'ici, au niveau terrain, le sol se prête bien pour les orchidées. Et en plus, au niveau forêt, c'est intéressant parce que les conditions sont bonnes pour qu'il y ait pas mal d'espèces. Mais disons qu'il faut prospecter. Le problème est là, il faut prospecter. Il faut des jambes.
La seule chose qui n'existe pas à Poyol, c'est un étang, alors qu'il y a 3 étangs à Jonchères. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de grenouilles et de crapauds sur la commune parce qu'il n'y a pas d'étang.
Nous sommes sous deux tilleuls, sur une table qui est presque ronde, qui est octogonale, dans un superbe espace public qui a été refait de l'an dernier, qui a été livré l'an dernier, donc sur un don d'habitants à la commune. On est sur le terrain du Préron. Et ce terrain était traversé par la BU à un moment donné, et la BU qui se trouve pas très loin, mais il y a eu quand même, domptage c'est peut-être un gros mot, mais un accompagnement du lit du torrent suivant les générations. Comment ça s'est passé avec le village ?
On peut dire que le village n'est protégé que depuis la déviation, c'est-à-dire 1980, 1978, 79, 80, parce que jusque-là, et moi j'ai le souvenir dans les années 60, d'avoir vu encore l'eau de la BU passer dans la rue du village. Je revois maman avec son balai chasser l'eau qui était dans la cuisine. C'est une autre aussi raison de constater qu'il y a très peu de caves enterrées à Poyol. Il y en a vraiment très très peu, donc c'est très récent, et je pense que la somme des doléances de tous les acteurs pendant des siècles a certainement permis de déclencher le financement qui a dû être énorme de cette déviation pour un village aussi petit. On disait aussi à l'époque qu'ils en avaient profité pour classer cette route entre guillemets stratégique, militaire. Ça pouvait être une explication aussi pour avoir mis autant d'argent sur cette déviation.
Et l'une des causes aussi, c'est que les gros camions de bois qui avaient beaucoup de mal à traverser le village. Donc c'est l'une des causes qui a fait qu'on construit cette déviation.
Heureusement, dans ces années-là, dans 80, pour les travaux publics, c'était bien. Il y avait des travaux qui se faisaient. Les financements étaient mieux qu'aujourd'hui.
Si on vient un petit peu sur la faune qui est observable, là je me tourne vers le secrétaire de la CCA de Poyol. Qu'est-ce qu'on peut, en se promenant, en allant à l'affût ou de près, trouver comme faune spécifique ou générique au Diwa ?
Alors ici, si on essaye d'aller du plus gros animal vers le plus petit, le plus gros, je pense, c'est le cerf. On trouve pas mal de cerfs, alors qu'il n'y en avait pas par le passé. Ça fait une vingtaine ou une trentaine d'années qu'on a des cerfs. On a des chamois, on a des chevreuils aussi, qu'on n'avait pas autrefois. On a beaucoup, beaucoup de sangliers, qu'on n'avait pas autrefois, ou très peu. Donc ça, c'est une évolution aussi qui date de ces 4 dernières décennies. Ensuite, on trouve quelques loups maintenant aussi. On trouve des renards, on trouve du lièvre, on trouve du lapin. Il n'y en a plus. Il y en a eu beaucoup, il n'y en a plus. Donc à cause des maladies, myxomatoses et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est peut-être le plus petit mammifère qu'on peut trouver. Après, on trouve aussi quelques oiseaux. Notamment, on a un bon passage de bécasse, donc dans l'automne. Qu'est-ce qu'on a ? J'en oublie.
Aussi des passages de vautours, mais seulement des passages. Aucun vautour ne niche sur les montagnes de Poyol.
On a aussi des aigle royal. On a aussi quelques éperviers, des choses comme ça, beaucoup de passages de Milan.
Des buses.
Voilà les principaux.
On peut rajouter les chauves-souris, puisque sur ce terrain du Préron, vous avez là-bas une très belle cabane pour abriter les chauves-souris. Et nous avons au village une jeune femme très très au courant de toutes ces espèces.
Donc, reboisement qui a été efficace. On se tourne vers les monts autour et on voit, bon, il y a le pin noir qui a quelques difficultés. Ça, on a eu l'occasion d'en parler à d'autres, sur d'autres émissions et reportages avec, avec le réchauffement climatique. Mais bon, il y a quand même une richesse au niveau forestière, une richesse arboricole un petit peu. Ici, on a parlé des tilleuls. Là, ont été plantés des arbres fruitiers aussi sur cet espace-là. Les animaux sont revenus en diversité. La flore l'est aussi. Au niveau de l'activité agricole, est-ce que... alors, peut-être à rajouter sur
Simplement pour les arbres, on a eu pendant longtemps de magnifiques peupliers sur la place. Mais le dernier a été... coupé, enfin détruit il n'y a pas longtemps. Mais pendant très longtemps, Poyol était caractérisé par de magnifiques peupliers noirs sur la place.
À l'époque, on avait des mûriers partout. Maintenant, on a du mal à en trouver. On a la chance d'en avoir un encore ici à côté. Et donc, à Poyol, il y a eu beaucoup d'élevage de vers à soie. Et ça, bon, ça a été jusque dans les années 60, je pense, à peu près. Jean-Claude, c'est mieux que moi. Voilà.
Ça, en 1960, on pouvait encore acheter des graines de ver à soie dans le Diwa. Maintenant, c'est fini.
Et je voudrais venir corriger une chose que j'ai dite tout à l'heure à propos de mon arrière-grand-père qui faisait de la clairette là-haut à un endroit improbable et qui avait eu un prix. En fait, le prix, il ne l'a pas eu pour la clairette. Le prix, il l'a eu pour ses travaux qu'il avait fait pour des plants hybrides résistants au phylloxéra, parce que c'était suite à ce désastre du phylloxéra qui avait lessivé, si je puis dire, toutes les vignes.
Belle transition. Donc aujourd'hui, il y a encore de l'appellation Clairette de Die qui est faite sur la commune, je crois savoir.
Oui, tout à fait. Il y a encore des viticulteurs. Je voulais aussi rebondir. Tout à l'heure, on a parlé de la terre et on a parlé de pollution ou de pesticides. Il faut savoir que lorsque le premier maraîcher s'est installé au village, et Laure, qui est là et qui va nous régaler avec ses légumes à midi, a repris cette activité. Évidemment, il y a eu des prélèvements à la fois de terre et d'eau pour pouvoir bénéficier de l'appellation bio. Et en fait, en gros, cette terre qui, la plupart du temps, n'avait pas été travaillée depuis si longtemps, elle avait toutes les qualités pour être immédiatement classée en appellation bio. Et l'eau pour l'arrosage aussi.
Bon, bah ça, c'est une sacrée richesse. Donc, maraîchage en activité agricole, ça, avec l'or. Est-ce qu'il y a d'autres activités spécifiques avec ces richesses roches, torrents et flore? Il y a le miel, peut-être?
Oui, il y a toujours eu un petit peu d'apiculture, plus, je dirais, familiale. Dans l'époque dont je me souviens, quand j'étais gamin. Maintenant, on a un apiculteur ou deux, un peu plus professionnel sur la commune, plus quelques amateurs. Et pour revenir sur les cultures et sur le maraîchage, il devait y avoir beaucoup plus de maraîchage et de cultures de légumes, je pense, qu'autrefois, parce qu'on trouve encore un réseau extrêmement dense d'irrigation qui a disparu aujourd'hui, qui n'est pas utilisé, mais on trouve encore les traces de ces ruisseaux d'arrosage qui prenaient leur piquage sur les différents ruisseaux de Poyol qui descendent des ravines ou des différents coteaux qu'on a tout autour de la commune.
Il a existé aussi un moulin à Poyol, qui est en haut de Poyol, et où on a encore l'installation du moulin.
Un moulin en haut.
Il a fonctionné longtemps, ce moulin.
Et des noyers, peut-être?
La culture du noyer, je pense, elle est assez ancestrale sur la commune. Et ça s'est densifié ces dernières années parce que c'est une récolte qui est assez régulière, même si le rapport n'est peut-être pas à la hauteur de ce que les paysans souhaiteraient. Mais voilà, il y a beaucoup de culture de noyer sur Poyol.
Nous n'avons pas parlé d'élevage. Dans les années 1800, il y avait beaucoup de bêtes au village, Mais chaque paysan en avait quelques-unes, pas beaucoup, très peu. Et elles étaient regroupées dans des troupeaux, troupeaux de l'Est, troupeaux du couchant. Et ils avaient des bergers qui les emmenaient. Les seuls gros troupeaux importants pour un seul propriétaire, c'était dans les deux fermes. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'élevage. Il n'y a plus d'élevage au village. En tout cas, il y a eu pendant près de 100 ans, il y avait même des interdictions de laisser partir les chèvres parce qu'elles détruisaient, elles mangeaient tout. Et que le village n'avait pas assez de bois pour se chauffer et pour chauffer le four communal. Donc, on demandait aux propriétaires de garder leurs chèvres au piquet, comme ils disaient.
En parlant de four communal, on s'approche bientôt de l'heure du repas. Et avec le four ici, sur la place publique, on va se régaler. Encore une petite réaction, je voulais parler d'un petit sujet. Après, on passera, si vous voulez commencer à réfléchir à des questions que vous voulez poser ou des interactions, on passera le micro à ceux, celles qui veulent parler. Donc d'abord, oui. Jean-Claude et après Georges, oui.
Il faut rappeler que chaque famille jusqu'aux années 1950 avait ses cochons. Hein. Et on pourra répondre à des questions sur la démographie. Parce que tout de même, Poyol, en 1820, a eu 422 habitants. Et le minimum, en 1975, c'est 52 habitants. On approche de 100 maintenant.
Je voulais revenir pour les noyers. Toutes les familles dans tous les villages ici dans le Diois avaient des noyers. D'abord, ça leur servait pour faire de l'huile, pour manger des noix aussi comme ça. Ils en vendaient un peu. Et surtout, pour une chose que maintenant on n'y pense plus, mais les agriculteurs s'en servaient pour la retraite. Ça leur finançait une partie de la retraite. Parce que moi, j'ai fait un travail que certains ne connaissent pas bien ici, mais l'arrachage de noyers. Avec un copain d'Audi, on avait une Jeep dans les années 70 qui nous était fournie par Eustache. Vous avez connu l'entreprise Eustache d'Audi qui faisait le découpage de noyers, qui le tranchait. Et nous, donc, on avait cette Jeep et on faisait le tour des fermes. On arrachait les noyers. Mais arracher un noyer, c'était pas de tout repos. Et on faisait ça en hiver. On allait jusqu'en bas, couper les racines, tout ça, à la hache. Et on l'arrachait totalement. Et c'était pour la retraite des agriculteurs. Et on portait ça chez Eustache pour le débitage.
Et un dernier voilà. Petit volet dont on n'a pas parlé. Mais là, sous les tilleuls, la brise est agréable. On a aussi un microclimat au niveau aérien. C'est-à-dire que quand on est entre deux roches aussi magnifiques avec un torrent au milieu, souvent il y a des courants d'air qui peuvent être intéressants. Alors on aura peut-être l'occasion cet après-midi d'avoir des membres de l'association de parapentistes Passe-Montagne qui partent souvent du haut de Clamontard. Mais aujourd'hui autour de la table on a aussi un membre de l'association d'aéromodélisme de Poyol. Et en quoi, s'il vous plaît, Jean-Jacques, si vous voulez bien nous dire quelle est la spécificité des courants d'air et comment on peut s'en servir ici.
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, ce qu'on appelle le vol thermique, où le but consiste à trouver des bulles d'air, des ascendances, c'est-à-dire des zones où l'air a été chauffé un peu plus qu'ailleurs. Et ça a fait déclencher depuis le sol une masse d'air qui va avoir une vitesse verticale. Donc surtout pour le vol à voile, on recherche ces zones-là qui permettent de prendre de l'altitude et de pouvoir transiter et d'aller plus loin. Je parle là des modèles grandeur nature. Mais on fait exactement la même chose avec des modèles réduits. On ne cherche pas à aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais ça nous permet de rester en l'air plus longtemps. Ça, c'est le vol thermique. Et il y a aussi le vol dynamique. Donc ce vol dynamique, il est créé par l'effet du vent contre une paroi. Donc à Poyol, on n'est pas très, très bien orienté parce que les vents sont nord-sud et la vallée est nord-sud. Mais au bout de la montagne de Clamontard, un peu au-dessus de Lucandiwa, là, le vent du nord vient frapper le relief, donc se retrouve avec une incidence verticale, et le vol à voile, que ce soit du parapente, que ce soit du vol à voile ou du vol planeur modèle réduit, profite de cette direction ascendante du vent pour pouvoir monter. Voilà, en gros, les spécificités liées au relief, c'est sûr. Alors du coup, pour les vols thermiques, il y a un tas de choses qui interviennent. Il y a la couleur du sol. Il y a bien sûr la température globale, mais la couleur du sol est assez importante. Lorsqu'on cherche une ascendance, il faut toujours essayer d'aller sur la zone la plus claire. Donc si on a un champ de blé presque mûr qui tire un peu sur le blanc, sur le jaune, c'est là-dessus que va se déclencher de façon prépondérante une bulle d'air chaud qui va nous permettre de monter.
J'ai un micro avec fil qui peut, avec mes pattes de bipède, marcher jusqu'à vous. Donc si vous avez des questions, des interventions, des réactions, si vous voulez poser des questions aussi sur l'histoire de Poyol, du Val de la Belou, des roches environnantes.
Je complète la description très intéressante des parapentistes. Moi, j'étais vélivoliste, je faisais du deltaplane, j'étais moniteur. Il y a aussi des vols de restitution qui, le soir, inversent le système des ascendances ou des descendances. Et puis, il y a le vol d'onde aussi, qui est important, mais ça, c'est plus pour les planeurs. Voilà, c'était un petit complément. C'est un plaisir de connaître ce village. Je l'ai découvert à travers une amie qui est véritablement ancienne du pays, qui m'a montré, ma grand-mère était là, mon grand-père était là, mon cousin, mon oncle, etc. Un vrai bonheur. Franchement, gardez votre village tel qu'il est en ce moment. Moi, je suis crétois. On change beaucoup à Cré en ce moment, heureusement ou malheureusement. Ça va dépendre des bons moments. Mais ici, on retrouve la vraie nature. Moi, j'ai mon souvenir d'enfance crétois que je retrouve ici. Le petit ruisseau qui passe, les chemins, les champs de blé, la montagne, la partie rocheuse là. Ça ne donne qu'une envie, c'est d'aller y monter. Alors franchement, préserver ces chemins, j'imagine prévus à cet effet, faites en sorte qu'on puisse le visiter. Et vraiment, merci de cette très intéressante explication sur votre village. Bravo.
En parlant de balade, je précise pour ceux et celles qui sont là que tout à l'heure, à 14h, il y a une promenade orchidée qui est proposée par Georges, qui tient aussi un stand que vous pouvez voir de l'autre côté de la salle communale.
Je voulais savoir pourquoi les vautours ou autours ne viennent pas ici.
Les vautours sont à Rémusat et il y en a qui nichent dans les gorges des Gats. Donc il semble que peut-être que la structure exacte des montagnes de Clamontard, de la montagne des Côtes, ne convient pas pour qu'ils nichent. Donc on ne les voit pas, on les voit passer, mais aucun vautour, il y a quatre espèces, aucun vautour ne niche dans la vallée.
Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les vautours ont été réintroduits dans la région et qu'ils y sont beaucoup nourris. Et ils sont nourris effectivement vers Rémusat, donc comme vers les gorges de Saint-Aimé, comme l'expliquait Jean-Claude, et aussi dans le Vercors. Et donc tout ça est lié à l'importance des troupeaux. Donc il y a toujours des bêtes mortes qui sont données aux animaux. Sur Poyol, il n'y a plus de troupeaux depuis très longtemps, donc il n'y a pas vraiment de nourriture pour les vautours. Donc ils transitent sans trop s'arrêter, quoi. Voilà.
Je suis peut-être à côté parce que c'est une émission sur l'histoire de Poyol, mais je voudrais en savoir un peu plus sur Poyol aujourd'hui. Combien d'habitants? Qu'est-ce qu'ils font
Alors, j'ai tendu le micro à une personne qui n'était pas à la table, mais qui peut y répondre, Valérie Joubert.
Bonjour à tous. Du coup, je vais répondre oui pour cette question. Aujourd'hui, donc on est presque, comme disait Jean-Claude, aujourd'hui presque 100 habitants. On dépasse des fois les 100 habitants. En tout cas, à l'INSEE, on est 99. Ce qui fait qu'on est encore 7 au conseil municipal. On n'a pas passé le cap plus au conseil. On a par contre depuis quelques années beaucoup plus de jeunes familles qui sont arrivées avec des enfants. Et aujourd'hui, on a à peu près 20 enfants et on est la deuxième commune la plus représentée à l'école de Luc, par exemple. Donc voilà, ce qui fait aussi qu'on a des nouveaux espaces publics, beaucoup de maisons du centre du village qui étaient fermées et qui se sont réouvertes, qui ont été retapées et qui sont aujourd'hui habitées toute l'année. Et en termes d'activité, on a du coup des personnes qui sont présentes ici et qui vivent de leurs activités, donc du maraîchage, poterie, atelier de vélo, et qui sont présents là avec leur stand pour présenter justement un peu toute la richesse du village.
Pour compléter ce que dit Valérie, cette édition de la fête du circuit court, cette année, on a quasiment que des poyolais et des poyolaises qui présentent leur activité, leur production, que ce soit artisanale, agricole, artistique. Vous pouvez voir et vous pourrez aller voir un petit peu tout ce qu'ils arrivent à faire de riche dans le pays. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Est-ce que autour de la table, vous voyez un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou qui vous tient à cœur de venir explorer encore quelques minutes ?
Jean-Claude. Non, au niveau de la peinture, mon père Pierre Rouchouz a été un peintre du Diois important, et puis même au niveau national, puisqu'il a eu la médaille d'argent de la ville de Paris. Donc il a fait une centaine de tableaux de 1935 à 1980. Du Diois, y compris de Poyol, et on a deux tableaux, un dans la salle communale, à la mairie, et un ici. Donc c'était un peintre classique avec de très beaux paysages de Poyol et du Diois.
Moi je voudrais revenir sur les sources ferrugineuses du Miral, dont a parlé Jean-Claude au début. Et donc du coup, moi j'ai toujours entendu dire par mes grands-parents que ce truc-là avait périclité parce que il y avait en fait en été il y avait plus d'eau à la source, et donc il y avait des gens qui venaient pour faire leur bain, je sais pas trop dire quels étaient les bienfaits, mais bon, peu importe, il y avait plus d'eau et les gens avaient beaucoup investi d'argent dans la construction de ce bâtiment et tout ça, et donc ils allaient la nuit chercher de l'eau dans la rivière pour alimenter les bains. Et jusqu'au jour où, ben évidemment, ils ont été dénoncés et la boutique a été fermée. Donc voilà l'histoire des bains du Miral.
Oui, et puis il y a une deuxième cause aussi. Donc l'établissement du Miral a tenu 6-7 ans. Il pensait bénéficier de l'arrivée du train dans le Diois, mais le train a traîné à arriver. Ils ont ouvert l'établissement avant l'arrivée du train, et comme le train a traîné, ils n'ont pas pu continuer.
Alors là, vous ouvrez la porte de quelque chose qui m'intéresse, parce qu'un de mes amis à Cray avait un musée de pierre, de qualité de pierre un peu extraordinaire. Vous parlez d'eau ferrugineuse. Est-ce qu'au travers de cet espace, vous avez découvert, en dehors de notre calcaire préféré, d'autres cristaux, d'autres pierres étonnantes à collectionner ?
Alors, on trouve beaucoup, beaucoup de fossiles qui datent donc de l'époque où la mer était à Poyol.
Donc c'est... Oui, on trouve pas quand même beaucoup de fossiles, parce qu'on en trouve un petit peu en haut des Marnes Noires, donc pas loin d'ici. Mais la couche où il y a le plus de fossiles, c'est le Valanginien qui est au col de Prémol, donc à Jonchères. Donc il y a plus de fossiles en ammonite à Jonchères que sur la commune de Poyol. On peut peut-être en trouver dans le Quiméridien, mais c'est en empreinte et c'est difficile.
Donc si je demande à mon ami Gilles Rabois de venir faire un tour dans votre secteur, il y a des chances pour qu'il trouve des belles ammonites, des...
Sur Jonchères, oui.
Voilà, c'est ça. Mais de pierres un peu sortant de l'ordinaire, un peu moins.
Non, parce qu'il n'y a pas de cristaux sur la commune de Poyol. On trouve des cristaux à Chamaloc et on trouve des cristaux au col de la Chaudière. Mais sur la commune de Poyol, on n'en trouve pas. Ou quelques petits cristaux blancs de calcite, mais qui n'ont pas un intérêt extraordinaire.
Eh bien, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette première table ronde sur la vie entre roches et torrents, des éléments qui façonnent un village qui s'adapte. Merci Mado Joubert, merci Jean-Claude Rochouze, merci Georges Ganjon, merci Jean-Jacques Ferrier, merci Valérie Joubert aussi d'avoir participé à la préparation. La journée continue, on va bientôt pouvoir passer à table. Et après, il y aura une deuxième table ronde cet après-midi à 14h30. Ce sera toujours la vie entre roches et torrents, mais cette fois-ci, des forces de la nature s'en protéger. S'y projeter un petit peu de manière un petit peu plus technique avec des partages d'expériences d'autres villages et d'autres collectivités du territoire. Bonne journée.